enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alors, le titre de mon message ce soir, c'est une confiance inébranlable. Inébranlable veut dire que l'on ne peut pas ébranler. Et j'aimerais lire avec vous un passage de la parole de Dieu que vous connaissez tous très bien, qui se situe dans le psaume 37, versets 3 à 5. Psaume 37, versets 3 à 5. Voilà, il est dit là, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 40, verset 5, il est dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance ». Amen. Si ce soir vous voulez être heureux et désirer que le Seigneur agisse dans votre vie, eh bien vous n'avez, selon ce que dit la parole de Dieu, pas d'autre solution que de mettre votre confiance en l'Éternel. Amen. Ce soir j'aimerais... Eh bien, partagez le message et le départagez en trois parties. Première partie, fais confiance en l'Éternel qui est glorieux. Deuxième partie, une humble confiance en celui qui nous aime. Et troisième partie, une confiance reconnaissante. Premier point, faire confiance en l'Éternel qui est glorieux. Je pense qu'il nous est à tous et à toutes arrivé un jour de faire confiance en quelqu'un qui nous a peut-être déçus. Et je pense, dans le sens inverse, qu'il nous est probablement tous arrivé, eh bien, de décevoir quelqu'un qui nous a fait confiance. Il me semble que le seul en qui l'on peut parfaitement mettre notre confiance, selon ce que dit la parole de Dieu, et qui ne déçoit jamais, c'est l'Éternel. Amen. Je peux dire, du haut de cette estrade ce soir, que jamais, jamais, jamais l'Éternel ne m'a déçu. Et dans la mesure où je mettais ma confiance en lui, eh bien oui, je peux dire avec force que jamais il ne m'a déçu. Amen. J'avais déjà dit, eh bien, que le milieu de la parole de Dieu se trouvait dans le psaume 118. Avant le psaume 118, il y a le psaume le plus court, qui est le psaume 117, qui contient deux versets. Et après le psaume 118, il y a le psaume 119, que vous connaissez par cœur, qui contient 176 versets. Non, vous connaissez le 117 par cœur, hein, peut-être pas le 119. Et avant le psaume 118, nous comptons 594 chapitres. Et après le psaume 118, nous comptons également 594 chapitres. Lorsque vous faites le total des deux fois 594 chapitres qui entourent le psaume 118, vous trouvez le chiffre 1188. Et lorsque nous décomposons le chiffre 1188, nous obtenons psaume 118, verset 8. Nous revenons au milieu de la parole de Dieu et il est dit là, « Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel » que de se confier en l'homme. Amen. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier en l'homme. J'ai essayé de trouver une définition pour la confiance. Alors le dictionnaire nous dit ceci, la confiance est un sentiment de sécurité de celui qui se fie à quelqu'un ou à quelque chose. J'ai essayé moi de trouver une définition un peu différente. Et j'ai essayé, avec trois ingrédients essentiels, d'essayer de trouver ce qu'était la confiance. Et ces trois ingrédients, je les ai cherchés dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 13, où il nous parle de trois choses qui sont essentielles. Ces trois choses sont la foi, l'espérance et l'amour. Et il me semble que lorsque vous mélangez la foi, l'espérance et l'amour, vous trouvez la confiance. La foi, tout d'abord, découle d'une expérience personnelle avec Jésus-Christ. La foi se tourne vers quelqu'un, vers une personne. Nous faisons confiance en quelqu'un. Je vous rappelle que la foi, ce n'est pas obliger Dieu de faire ce que nous voulons qu'il fasse. Mais la foi, c'est eh bien croire que Dieu, qui est grand, qui nous aime, fait de notre vie ce que lui désire faire. La foi, c'est accepter que cette personne, Jésus-Christ, que nous avons rencontré, eh bien, fait ce qu'il veut, mais il le fait parce qu'il nous aime et parce qu'il veut nous faire du bien. Amen. C'est ça la véritable foi. Le contraire de la foi, c'est le doute. Et le doute amène l'inquiétude. Et dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il est dit, c'est également un passage que vous connaissez, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à qui ? À Dieu, par des prières, des supplications avec action de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Il n'est pas dit que lorsque vous faites connaître vos problèmes, vos difficultés, vos désirs à Dieu, il y répondra forcément. Ce n'est pas ce qu'il est dit dans ce passage-là. Mais il est dit que lorsque eh bien, vous faites connaître vos besoins par des prières et des actions de grâce, Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. La foi eh bien, se tourne vers la personne de Jésus. Hébreux chapitre 11, verset 6. « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Premièrement, il faut s'approcher de Dieu. Il faut croire qu'il existe. Deuxièmement, il devient alors le rémunérateur de notre foi. Il récompense notre foi au travers des promesses qui sont données dans sa parole. La foi, premièrement. Deuxièmement, l'espérance. L'espérance, c'est s'appuyer sur les promesses de Dieu en croyant qu'elles vont s'accomplir. Amen. Si nous mettons notre foi en la personne de Dieu et notre espérance en les promesses qui vont s'accomplir, alors oui, Dieu accomplit ses promesses. Et puis enfin, l'amour. L'amour couvre la foi et l'espérance. L'amour, nous est-il dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13, est la plus grande de ces quatre composantes de la confiance en Dieu. L'amour, eh bien, c'est le résultat que Dieu a accompli lorsqu'il a donné son Fils pour nous. Cette personne, Jésus-Christ, en laquelle nous avons mis notre confiance. L'amour, c'est également la motivation de Dieu qui nous a donné ses promesses dans sa parole, afin que par la foi et avec l'espérance, nous puissions vivre ses promesses. Amen. La foi, l'espérance et l'amour. La confiance est la merveilleuse association entre la foi et l'espérance. Foi plus espérance, de tout englobé de l'amour, nous donne la confiance en l'éternel. Dans l'évangile de Luc, le centenier montre qu'il a la foi. D'abord, il s'approche de Jésus, la personne de Jésus. Et puis, il dit à Jésus, « Seigneur, si tu pouvais seulement dire une parole, mon serviteur serait guéri. » L'espérance. Il croit que ce que Dieu dit, il peut l'accomplir. Et Jésus dira la chose suivante, « Voilà, je n'ai pas trouvé dans tout le peuple d'Israël une foi aussi grande que celle-ci. » Il y a également la foi de Bartimée. Bartimée sur le chemin de Jéricho, fils de Timée, aveugle. Bartimée a la foi en une personne qui s'appelle le fils de David. Bartimée ne connaissait que le fils de David au travers de la Torah et des prophètes. Et selon ce que disait le prophète Ésaïe, il croyait que le fils de David allait venir pour guérir les malades, libérer les captifs, pour rendre la vue aux aveugles dont lui faisait partie. Et lorsqu'il était là, sur son chemin de Jéricho, avec sa foi en le fils de David, voilà que Jésus, fils de David, arrive. Et voilà qu'il s'approche alors d'une personne, Jésus, fils de David, et qu'il lui dit « Aie pitié de moi ». Jésus s'arrête, lui demande ce qu'il veut et le guérit de sa cécité. Amen. Quelle belle preuve de confiance de Bartimée, de ce centenier et de bien d'autres encore personnes dans la parole de Dieu. Il est important que nous mettions notre confiance dans celui qui est le héros des héros, dans celui qui est glorieux, qui est tout-puissant. L'autre jour, je discutais avec mon fiston Timothée. Et il me disait tôt le matin, il me disait qu'il avait deux héros. Ses deux héros préférés dans sa vie, c'était son papa, premier. Et puis le deuxième héros de sa vie, c'était Zinedine Zidane. Vous connaissez Zinedine Zidane, hein? Alors je dis à mon fils, écoute, moi je connais quelqu'un qui joue mieux que Zinedine Zidane. Alors il me regarde avec des grands yeux. Qui peut bien jouer mieux que Zinedine Zidane? Je lui dis, tu sais, moi je connais quelqu'un qui a donné la technique à Zinedine Zidane. Et qui connaît la technique du foot avant même que le foot n'existât. Ah bon? Je lui dis, oui, il s'appelle Jésus. Alors il n'avait pas l'air de trop me croire. Alors je lui ai dit, écoute ce qu'on va faire. On va ensemble prier pour que Zinedine Zidane se tourne vers Jésus, qu'il puisse aller au ciel avec nous, et puis un jour, toi, tu te mettras dans l'équipe avec Zinedine Zidane, et moi, je me mettrai dans l'équipe avec Jésus, et on jouera ensemble. Et tu verras qui c'est qui gagnera. Moi, j'ai confiance en mon Seigneur. Amen. Si moi, je joue comme une savate, lui, je sais qu'il saura rattraper ma manière de jouer. Amen. Parce qu'il est glorieux. Dans la parole de Dieu, glorieux se dit en hébreu kabod. Kabod, le kabod, Yahvé kabod, l'éternel est glorieux. Je lisais l'autre jour dans un magazine que des scientifiques, je ne sais pas par quel moyen, avaient découvert qu'il existait une étoile qui était éloignée de la Terre de 450 000 milliards de kilomètres. 450 000 milliards de kilomètres. Dieu n'est-il pas glorieux? Je lisais également dans cet article qu'ils avaient trouvé un objet dont la matière était telle en densité de fer qu'une seule petite cuillère de cette matière pesait 1 million de tonnes. Attendez, le poids de gloire de Yahvé Kabod l'Éternel, notre gloire. Amen. N'est-il pas glorieux celui en qui nous pouvons mettre notre confiance? Et c'est parce que nous croyons qu'il est tout-puissant que nous pensons que si nous mettons notre confiance en lui, oui, il agira, quelle que soit notre difficulté, quel que soit notre souci, quel que soit notre problème. Il est le héros des héros. Amen. Moïse a rencontré le Dieu de gloire. Il est dit dans le livre de l'Exode, chapitre 33, versets 18 à 23, Dieu dit à Moïse, quand ma gloire passera, quand le kabod passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Yahvé Kabod, l'Éternel de gloire. C'est en lui que nous pouvons mettre notre confiance, parce que s'il est le Dieu de l'infiniment grand, il est également celui qui est le Dieu de l'infiniment petit, et en l'occurrence, il est le Dieu de la vie de chacun d'entre nous. Amen. Lorsque j'étais au Sénégal, l'année dernière, j'ai à deux reprises touché un morceau, une miette de la gloire de Dieu. Quand j'étais dans l'avion, commençait à naître en moi ce projet d'évangélisation des enfants dans les quartiers. Et alors que j'étais dans l'avion, je disais, Seigneur, montre-moi si c'est le temps de Dieu et si cela est ta volonté. Et j'ouvre la parole de Dieu et je tombe sur ce passage d'Ésaïe chapitre 54 qui me dit ceci, élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages, affermis tes pieux, car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira les nations, ne crains pas. Alors je dis, Seigneur, j'aimerais que tu confirmes cette parole au travers de ce que je peux vivre au milieu des enfants au Sénégal. Et voyez-vous, lorsque je disais tout à l'heure avoir vécu deux moments qui pour moi étaient glorieux, le premier, eh bien, c'est lorsque j'étais à Mbourg, dans cette grande ville, où nous évangélisions les enfants avec Jokel au centre, et nous voyons arriver là 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 400, 450 enfants. Et pendant que ces enfants unis ensemble louaient Jésus de tout leur cœur, à côté, dans la mosquée, l'imam récitait des versets coraniques. Et ça, mes amis, assistez à ça, vous ne pouvez que voir en cela un Dieu glorieux. Amen. Il y avait au milieu de ces enfants des talibés, Vous voyez, les talibés sont des enfants qui ont été vendus à souvent un très bas prix à des marabouts. Et ils se promènent dans la rue avec des fils autour de cou et à lesquels est accroché un morceau de casserole ou une boîte de conserve. Et là, ils parcourent toute la journée les rues de la ville pour essayer de récupérer là un morceau de fruit, là un peu de riz, là un petit peu d'argent. Tout ce qu'ils peuvent trouver, ils le mettent dans leur petite boîte et le ramènent le soir au marabout. Et gare à eux s'ils rentrent avec cette boîte vide sans rien dedans. Et ces petits talibés étaient là, ils avaient posé leur boîte et ils étaient en train de louer le Seigneur. Ils étaient en train, pendant un moment, eh bien de toucher la gloire de Dieu au travers de leur chant, là dans la rue, avec tous ces enfants qui de tout leur cœur aimaient le Seigneur, la gloire de Dieu. Et puis, plus tard, nous sommes allés dans un lieu qui s'appelle Failar. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Samuel nous a un jour parlé de ce lieu dans lequel il avait vécu la gloire de Dieu. Et moi, j'aime bien voir ce qu'on me dit. Je suis comme saint Thomas. Alors, je suis allé dans ce lieu et, vous savez, quand nous sommes arrivés vers le soir, j'étais fatigué, parcourir la brousse toute la journée, c'est fatigant. Et puis, nous sommes arrivés, il faisait nuit. Et voilà que rentré dans ce lieu, il n'y avait pas encore d'enfants, ils nous ont entendus arriver. René commence à jouer du djembé, et voilà que 2 enfants, 10 enfants, 20 enfants, 30, 40, 50, 80 enfants commencent à venir. Et une petite fille de 12 ans commence à prendre la direction de la louange. Quand elle a commencé à chanter, la gloire de Dieu est descendue. Vraiment, je peux vous dire, la gloire de Dieu est descendue. Il y avait à ma droite un petit garçon qui devait avoir maximum 6 ans. Qui pleurait et qui priait pour les âmes. À ma gauche, dernièrement, des enfants qui louaient le Seigneur dans de nouvelles langues. La gloire de Dieu est descendue. Amen. Et c'est le même Dieu de gloire qui est aujourd'hui au milieu de nous et en qui nous pouvons mettre toute notre confiance. Amen. Oui, nous pouvons lui faire confiance. Ce Dieu de gloire est venu nous voir et nous visiter au travers de la personne de Jésus-Christ. Il est venu nous visiter au travers de ce merveilleux Sauveur. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes réconciliés avec le Dieu de gloire au travers de la personne de Jésus. Il est venu pour prendre soin de nous et nous pouvons lui faire confiance. Il est venu habiller les lys des champs. Même les 10 pharisiens les mieux habillés du pays à ce moment-là étaient encore miteux par rapport aux lys des champs que Dieu avait habillés à côté. Dieu de gloire, il est venu pour habiller les lys des champs, il est venu pour nourrir les oiseaux des cieux, c'est en lui que nous pouvons mettre toute notre confiance. Amen. Deuxièmement, une humble confiance en celui qui nous aime. Lorsque nous réalisons que Dieu nous aime, lorsque nous réalisons qu'il a donné sa vie pour nous parce qu'il nous aime, lorsque nous réalisons qu'il a quitté son ciel de gloire, la sécurité de son ciel de gloire, pour venir dans l'insécurité de la terre sur laquelle il a marché parce qu'il nous aime, lorsque nous réalisons qu'il a donné sa vie et s'est laissé clouer sur la croix parce qu'il nous aime, comment ne pas lui faire confiance? Comment ne pas croire que lui faisant confiance, lui parce qu'il nous aime, jamais, jamais, jamais il ne nous décevra? Il est comme un père qui aime chacun de ses enfants. Amen. Je lisais une très belle histoire, une histoire vraie. C'est un petit enfant de 5 ans, 6 ans. Il habitait avec sa famille au bord d'un lac. Et alors que son papa était en train de travailler, ce petit enfant, le petit Billy, 5 ans, 6 ans, eh bien, se dirige vers le ponton et voyant là le reflet d'un bateau, il se jette dans ce reflet et coule à pic. Il y avait la grande sœur qui était pas loin, qui commence à hurler, à appeler son papa. Et le papa arrive en coulant et il plonge. Et il cherche son fils, il avait du mal à le trouver. Il y avait de la vase, des algues, différents éléments qui faisaient qu'il avait du mal à trouver son fils. Et puis, au bout d'un moment, enfin, il retrouve son fils dans l'eau, qui était tranquillement agrippé à un morceau de bois qui dépassait du sol, qui était sous l'eau. Et puis il sort son fils de l'eau. Et au bout d'un moment, après l'avoir réanimé, après lui avoir fait les soins nécessaires, le père dira à l'enfant, mais pourquoi est-ce que tu étais agrippé à ce morceau de bois sous l'eau? Et le fils de dire à son papa, papa, je t'attendais, je savais que tu allais me chercher. Et c'est pour ça que je me suis agrippé à ce morceau de bois, parce que j'avais confiance en toi. N'est-ce pas beau? N'est-ce pas cette confiance-là que nous devons avoir en rapport avec ce Père merveilleux qui nous aime? Souvent, nous débattons dans des situations difficiles. Arrêtons de nous débattre et mettons notre confiance dans le Seigneur. Il est un Père qui nous aime. Non seulement il nous aime, mais il connaît également nos faiblesses. Il sait quand nous avons du mal à prier. Il sait quand nous avons du mal à lire sa parole. Il connaît la moindre de nos blessures. Il connaît nos difficultés. Il sait quelles sont les blessures qui nous ont marquées, qui nous empêchent de nous approcher de lui. Il connaît toutes choses. Et il nous aime tels que nous sommes. Amen. Nous ne croyons pas que nous avons besoin d'être différents pour que Dieu nous aime. Dieu nous aime avec nos difficultés, avec nos blessures. Et l'humilité veut dire, ou en tout cas, les résultats de l'humilité, c'est de ne pas faire une fixation sur nos faiblesses, mais c'est de regarder à celui qui a la capacité de nous utiliser malgré nos faiblesses. Amen. Celui qui a la capacité de nous changer. Et dans la mesure où nous lui faisons confiance, eh bien oui, il nous changera. Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il veut également nous utiliser tels que nous sommes. Je connais une parabole que je trouve très belle, qui n'est pas dans la parole de Dieu, mais qui est la parabole du seau percé. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est un serviteur indien qui travaillait pour son maître et qui portait tous les jours de la rivière à la maison du maître de l'eau. Et pour porter de l'eau, il avait un bâton derrière son dos, et à la droite du bâton un seau, et à la gauche du bâton un seau. Mais le problème était le suivant, c'est que le seau de droite était parfait. Il a été parfaitement créé pour les besoins de son maître, c'est-à-dire transporter toute la quantité de l'eau de la rivière au maître. Mais le problème du seau qui était à gauche, c'est qu'il était percé. Et le temps que le serviteur indien arrive au maître, eh bien la moitié du contenu du seau de gauche était tombée par terre. Et voilà que 2 ans après chaque jour avoir fait ce voyage, le seau percé dit au maître. Alors, les seaux, ça parle pas. N'oubliez pas que c'est une parabole, hein. Le seau percé dit au maître, au maître serviteur qui emmenait l'eau au maître, je me sens misérable et honteux. Parce qu'il me semble, eh bien, que je ne fais que le travail à moitié. À cause de mes trous, je perds la moitié du contenu de mon eau et à cause de cela, tu ne peux pas m'utiliser. Et le serviteur indien de lui dire, bien écoute, lorsque nous allons aller de la rivière en direction du maître, tu regardes sur ta gauche et tu me dis ce que tu vois. Ils firent le chemin et effectivement le seau percé arrivé chez le maître lui dit, bien écoute, oui, ce que j'ai vu, c'était qu'à ma gauche, il y avait, et uniquement à ma gauche, un parterre de fleurs. Mais je ne comprends pas. J'aimerais que tu m'expliques. Et le serviteur indien de lui dire, eh bien, vois-tu, je connaissais ta faiblesse. Je savais que ton seau était percé. Et parce que ton seau était percé et perdait de l'eau dans le chemin, je me suis dit que je pouvais planter des graines de fleurs tout le long du parcours et permettre à cette eau qui tombait de ton seau de ne pas être perdue, mais d'arroser ses fleurs. Et grâce à toi, tous les jours, je peux décorer la table de mon maître avec un bouquet de fleurs. Autrement dit, toi le seau percé, je t'utilise de la même manière, peut-être différemment, que le seau qui est à ta droite et qui est un seau rempli d'eau. Peut-être vous êtes là ce soir et vous êtes percé. Vous êtes comme des citerne crevassée. Et vous vous dites, mais Seigneur, comment peux-tu m'utiliser, moi, qui suis si misérable, moi qui ressemble à ce seau percé? Eh bien, simplement fais confiance au Seigneur. Il a la capacité, parce qu'il t'aime tel que tu es, de t'utiliser tel que tu es. Il a la capacité, lui qui est le porteur de ta vie, et qui va avec toi d'un endroit à l'autre pour t'utiliser, se servir de toi, de t'utiliser quand même, tu as l'impression que tu es misérable, que tu ne sers de rien, que tu es fragile, que tu as des difficultés dans certains domaines. Oui, Dieu, parce qu'il t'aime, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est tout-puissant, il a la capacité de t'utiliser tel que tu es. Amen. Est-ce que nous le croyons ce soir? Moi, je le crois pour vous de tout mon cœur. Je le crois pour vous de tout mon cœur. Lorsque nous plaçons notre confiance au Seigneur, voyez-vous, le sceau qui était percé, ne s'est pas rendu compte de sa condition avant qu'il ne réalise qu'il y avait un sceau à sa droite qui n'était pas percé. Et souvent nous sommes ainsi. Nous nous comparons aux autres. Et quand nous nous comparons aux autres, eh bien il nous arrive souvent par rapport aux autres de nous sentir misérables. Mais ce soir, soyons nous-mêmes. Restons ce que nous sommes. Quand même nous sommes percés. Quand même nous ne sommes pas encore parfaits. Lorsque le jeune pilote de voiture se compare à Michael Schumacher, il est certain qu'il peut se sentir déprimé. Lorsque le jeune écrivain se compare à Victor Hugo, il est certain qu'il peut se sentir déprimé. Lorsque la femme qui est un peu forte ou qui est un peu d'embonpoint se compare à Claudia Schiffer, il est certain qu'elle peut être déprimée. Si moi, je me mettais à me comparer à Mère Teresa ou à Moïse, j'aurais toutes les raisons, vous rigolez, vous avez raison, j'aurais toutes les raisons pour être déprimé. Ne vous comparez pas à quelqu'un d'autre, mais faites confiance que Dieu vous aime tel que vous êtes. Le jour où je paraîtrai en jugement devant le trône de Dieu, Dieu ne me dira pas pourquoi tu n'étais pas comme Moïse. Dieu me dira: bon et fidèle serviteur, tu étais comme Bertrand. Et je t'ai équipé pour être Bertrand et pas un autre. Et je me suis servi de toi en tant que Bertrand. Même si je chante mal, même si je sais pas jouer d'un instrument, j'ai vu Claude qui faisait une grimace quand je disais ça. Bien, je suis moi-même. Et vous êtes vous-même avec vos capacités, vos talents. Et Dieu, si vous lui faites confiance, au jour d'aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, il vous utilisera. Amen. Parce qu'il vous aime et parce qu'il a, il a la capacité de faire de grandes choses dans votre vie. Laissez-moi vous lire un texte que je trouvais très joli, qui dit ceci: si tu sens que l'Esprit de Dieu t'appelle, alors applique-toi à la sainteté de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Si malgré tout, et parce que la nature humaine est faible, tu ne parviens pas à la sainteté, alors recherche la perfection de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta force. Mais si tu ne peux atteindre la perfection à cause de l'orgueil qui sévit en toi, alors aspire à la bonté de toute ton âme. Cependant, si tu n'arrives pas à être bon à cause des pièges du malin, alors recherche la sagesse de toute ton âme. Et si en fin de compte tu ne parviens ni à être saint, ni parfait, ni bon, ni sage, à cause du poids de tes péchés, alors dépose ce fardeau devant Dieu et soumets avec confiance ta vie tout entière à sa grâce divine. Si tu fais cela sans amertume, en toute humilité et dans un esprit joyeux, à cause de la tendresse de ce Dieu qui a tant d'amour pour les pécheurs et les ingrats, alors tu commenceras à comprendre ce qu'est la sagesse. Tu apprendras ce qu'est la bonté. Tu aspireras peu à peu à la perfection. Et tu chercheras de tout ton cœur à être saint. Amen. Tu chercheras alors, touché par la grâce et l'amour de Dieu qui t'accepte tel que tu es, à être saint et à chercher à faire sa volonté. Un homme disait la chose suivante. Je vais vous relire la phrase deux fois. Sois ce que tu es, parce que si tu n'es pas ce que tu es ce que tu n'es pas. Je vais vous le relire doucement, hein. Je vois que Sam, il a des difficultés pour comprendre. Alors, je le répète. Sois ce que tu es, parce que si tu n'es pas ce que tu es ce que tu n'es pas. Je vois que certains ont compris là, hein. Mettons notre humble confiance dans le Dieu glorieux, celui qui nous aime de tout son cœur. Amen. Et que nous soyons une citerne crevassée, que nous soyons un seau rempli, qu'importe, continuons à œuvrer avec joie pour le Seigneur. Troisième point, une confiance reconnaissante. Savez-vous à quoi l'on reconnaît ceux qui font confiance à Dieu ? On reconnaît ceux qui font confiance à Dieu, eh bien ceux qui sont toujours reconnaissants, dans les bons et dans les mauvais moments. On dit du mal de vous, soyez reconnaissants. Cela prouve que vous faites confiance, non pas aux hommes, mais à Dieu. Vous n'avez peut-être pas de place que tout le monde voit dans l'église. Soyez reconnaissants. Vous travaillez pour le Seigneur et Dieu voit votre travail. Peut-être que vous êtes là et que vous souffrez, soyez reconnaissants. Sachez que toute chose, c'est une phrase qu'on a des fois du mal à dire. Et je le dis avec beaucoup de respect pour ceux qui souffrent. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je le crois de tout mon cœur. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous croyons qu'il fait concourir toute chose à notre bien. Alors bien sûr, c'est facile de le croire lorsque tout va bien, mais c'est plus dur de le croire lorsque tout va mal. Et lorsque nous sommes reconnaissants envers Dieu parce que confiants en lui, il ne faut pas l'être que le mardi soir ou le dimanche matin. Là, c'est facile de lui faire confiance. Mais il faut l'être 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Vous savez quelle serait la meilleure manière pour moi de voir si vous êtes confiant et reconnaissant ? Eh bien, ce serait de mettre une caméra dans votre maison, là où vous allez, 24 heures sur 24 pendant un mois. Et de passer le film ici sur les deux écrans. Et on ferait ça à tour de rôle pour chacun d'entre vous. Je serais le premier à pas vouloir qu'on le fasse, hein. Je le reconnais. Mais les yeux de Dieu sont la caméra divine. Et lui vous voit. Et il voit si vous êtes reconnaissant dans la disette, ou dans l'abondance. Il voit quelle est la mesure de la confiance que vous lui mettez. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Croyons cela de tout notre cœur. Et croyons que parce qu'il nous aime, parce qu'il est suffisamment puissant pour nous sortir des situations, même les plus difficiles, eh bien, lorsque nous sommes dans les situations difficiles, nous pouvons croire qu'il le permet pour quelque chose de meilleur. Amen. Je lisais cette histoire que je trouvais très gentille et très jolie. C'est un moine qui, poursuivi par un tigre, courait de toutes ses forces. Et voilà qu'il arrive devant un précipice. Derrière le tigre, devant le précipice. Et là, se tenait une corde. Alors bien sûr, le moine en a profité. Il a attrapé la corde et a commencé à descendre le précipice. Et voilà qu'en descendant, il voit en bas des pierres tranchantes et ciselantes. Il ne pouvait donc plus ni descendre, ni remonter parce que le tigre qui avait faim l'attendait en haut. Comble de tout, voilà que deux souris viennent et entre lui et le tigre commencent à ronger la corde. On ne peut pas être dans pire situation. Je ne sais pas si vous vous êtes un jour trouvé dans cette situation. Je pense pas, mais on peut être une similaire, hein. Et voilà que cet homme, essayant de se débattre à droite et à gauche, en regardant à droite, trouve là, au milieu d'un petit feuillage, une belle fraise, bien mûre, qui sentait bon la fraise. Et puis cet homme prend la fraise, et là, entre le tigre, les souris qui rongeaient la corde, et les pierres qui étaient en bas, il dit, Seigneur, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as placé dans cette situation, afin que je puisse goûter cette fraise. Amen. Après avoir goûté cette fraise, certainement que Dieu avait une autre solution pour le sortir de cette situation. Mais peut-être êtes-vous dans une situation que Dieu utilise de manière à ce que, eh bien, vous trouviez peut-être pas une fraise, mais en tout cas quelque chose de meilleur. Amen. Soyez reconnaissants et faites confiance au Seigneur parce qu'il vous aime, parce qu'il est puissant, il est capable d'intervenir dans votre vie. Je termine par la conclusion. Au début de ce troisième millénaire dans lequel nous sommes entrés, je crois que nous vivons des tourments et des choses difficiles. Je disais encore l'autre jour au bureau, la semaine dernière, mon fils Ézéchiel à l'école s'est fait taper dessus et malmené et on l'a traité de sale juif. Et ça a recommencé cette semaine, en dehors de l'école. On vit des temps difficiles, des temps de racisme, de conflits, de choses qui, pour lesquelles nous devons mettre notre confiance en Dieu. Mais je crois que, eh bien, si nous mettons notre confiance en Dieu, le plan de Dieu pour notre vie, quelles que soient les situations que nous vivons, quelle que soit la situation économique ou mondiale que nous vivons, le plan de Dieu s'accomplira certainement. Amen. Vous le croyez? Moi, je le crois de tout mon cœur. Nous devons être semblables à Christ. Lui a fait confiance à son Père. Et tout disciple accompli n'est pas plus que le Maître, mais comme le Maître. Et de la même manière qu'en toutes circonstances, il a su, lui, mettre sa confiance dans le Père, de la même manière, il nous faut, nous, mettre notre confiance en Dieu, en Jésus-Christ, qui saura pour nous trouver la solution à nos difficultés. Amen. Pour terminer, je dirais souvent, on dit au Seigneur qu'on l'aime. Souvent dans notre prière, ou le matin lorsque nous nous levons pour commencer la journée, ou dans la journée, nous disons « Seigneur, je t'aime ». Bien, je vous inviterai peut-être à, dans vos prochaines prières, à dire « Oui, Seigneur, je t'aime », mais à lui dire également « Seigneur, je te fais confiance ». Seigneur, je te fais confiance. Aujourd'hui, dans la journée qui commence, parce que je crois que tu m'aimes, parce que je crois que tu es suffisamment puissant pour me sortir d'une situation difficile, parce que je crois que tu veux m'utiliser comme je suis, eh bien, ce matin, je te dis, Seigneur, je te fais confiance de tout mon cœur. Amen. Pouvez-vous lui dire, Seigneur, je te fais confiance? Et je crois que lorsque vous dites au Seigneur que vous lui faites confiance, mais que vous viviez également de manière concrète en lui étant reconnaissant pour toute situation, cette confiance, eh bien, vous réjouirez le cœur du Père. Vous réjouirez le cœur du Père autant que si vous lui disiez « Père, je t'aime ». Amen. Faites-lui confiance. Et je peux vous garantir que jamais, 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 il ne vous décevra.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.